Bienvenue sur Radio Santé.
La Rédac vous présentera des articles, des reportages, des interviews
et bien plus encore.
Retrouvez-nous sur le blog de l'Abbaye aux Dames. Restez à l'écoute sur
Radio Santé.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission de Radio Sainté, l'émission qui vous informe en 20 minutes de l'actualité du Festival de Sainte. Donc je me présente, moi c'est Lucas Bérard, je suis blogueur au Festival pour la première fois. Je suis accompagné de Kira et Margot, qui sont toutes les deux blogueuses également. Et la présentation qui va être faite par Kira.
Donc aujourd'hui nous avons fait deux reportages, dont un que Margot a fait sur les accordeuses, et moi et Lucas qui avons fait une entrevue avec Stéphane Majeski. Et maintenant, on est en entrevue sur le plateau avec Hélène Dessy-Lartigo.
Donc Hélène Dessy-Lartigo qui est musicologue et qui intervient pour des conférences depuis de longues années au Festival de Sainte.
Oui, c'est ça, depuis 2005 je crois, mais je ne suis pas très sûre de la date.
Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours ?
Ben, en fait, j'ai commencé bénévole. J'étais chauffeur d'artiste en 2001. C'était il y a longtemps, vous étiez à peine née. Et, ou pas née du tout. Et donc, je suis venue comme bénévole. Et pendant 2 ans, j'étais dans l'équipe de chauffeurs. Et moi, j'avais fait la musicologie, le conservatoire et tout ça. Donc, c'était merveilleux parce que je conduisais des musiciens avec qui je parlais musique et musicologie. J'ai des souvenirs comme ça merveilleux, en particulier du meilleur pianiste, pianofortiste qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle André Hachtayer, et de l'avoir ramené à Bordeaux, à l'aéroport, entre 23h30 et 1h du matin, et d'avoir refait le monde du pianoforte toute la nuit. Donc c'était vraiment une très bonne expérience. Et puis après ça, comme j'étais musicologue et que je donnais des conférences par-ci par-là, j'ai été embauchée pour présenter certains concerts de ma spécialité.
D'accord. Qu'est-ce que la musicothérapie ?
Ah ben oui, parce que vous savez que je suis musicothérapeute.
Tout à fait, on s'est renseigné.
En fait, quand je viens à Sainte, je suis musicologue, spécialisée de musique sacrée et plutôt baroque. Même si cette année, par exemple, je vais aller au 19e siècle, c'est un grand voyage pour moi. Mais en fait, en même temps, après la musicologie, qui est une formation très académique, j'ai continué mes études, j'ai fait de la théologie, et puis j'ai aussi fait des études de psychologie, et avec un module de formation en musicothérapie. L'idée de la musicothérapie, c'est de s'aider dans le parcours thérapeutique d'un patient, de s'aider de la musique. Donc il y a plein de manières de faire. Si je prends un exemple avec un adolescent que j'ai suivi pendant longtemps, le principe, c'est qu'il arrivait avec sa musique, et moi j'avais la mienne. Et au lieu d'aller chez le psy où vous ne faites que parler, chez moi, la conversation ou l'échange, on pourra dire la thérapie, commence à partir de ce qu'on écoute comme musique. Donc le jeune m'apportait ce qu'il écoutait, et puis là me disait pourquoi il écoutait ça, etc., qu'est-ce qu'il ressentait, tout ça. Et puis moi, mon parcours de thérapie, il était ponctué de choses que moi je lui faisais écouter. Et voilà, donc ça peut être ça, ça peut être plein d'autres choses, de la relaxation, enfin c'est, on pourra en parler longtemps.
Vous faisiez découvrir donc aux jeunes la musique classique, justement, en quoi les enfants sont-ils si sensibles à ce style de musique ?
Alors, dans les parcours thérapeutiques que j'avais mis en place, il n'y avait pas systématiquement de la musique classique, parce que moi je suis folle de bossa nova par exemple, donc c'était pas forcément de la musique classique, mais effectivement la musique classique, à certains moments, il y a des pièces, je pense à une pièce de Brahms, comme ça, une symphonie qui commence par pom 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 pom, comme si on frappait à la porte. Pom 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 pom, pom 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 pom. Et donc effectivement, après toute la symphonie se développe, mais cette cellule sonore m'aidait à certains moments pour entrer dans une pièce du cœur du jeune en question, pour prendre en parler symboliquement. Mais non, c'est pas forcément la musique classique que j'utilisais là. Maintenant, pour répondre à votre question, je peux raconter quelque chose de très personnel. Ma deuxième fille, qui est sourde au demeurant, mais qui entend quand même un petit peu, est un très bon signal pour moi de compréhension, de l'appréhension de la musique classique pour les enfants. En fait, pour les enfants, il n'y a pas de musique classique et de musique moderne. Ça n'existe pas pour eux. Il y a de la musique. Et donc, une symphonie ou un quatuor de Beethoven, pour prendre un truc monumental comme ça, où c'est le sublime du sublime, un quatuor de Beethoven, ça a autant de valeur que Nina Simone, que Il est où le bonheur, il est où. Pour un enfant, ce qui compte, c'est ce que ça lui fait physiquement. Et effectivement, la musique classique est extrêmement bien travaillée, par certains égards, et fait que ça touche les enfants, et que ma fille de 6 ans veut autant un quatuor de Beethoven que de la bossa nova, ou que Il est où le bonheur, il est où, j'arrive pas à me souvenir de ce chanteur actuel là, Christophe Maé. Elle veut les trois musiques pour son anniversaire. Il n'y a pas d'échelle de valeur. Donc, il ne faut pas partir en se disant « Ah, les enfants, les petits-enfants, ils n'aiment pas la musique classique. » Parce qu'ils ne mettent pas les choses dans des cases. Mais c'est vrai que si on leur propose en leur disant « Attends, ça, c'est de la grande musique, c'est très sérieux, tu ne bouges pas, je vais te faire entendre quelque chose de grand. Ben, » le gosse, ça ne lui dit rien du tout. Il n'y a pas ces catégories comme ça qu'on a à partir de 12 ou 13 ans, où là, ça, c'est la musique de vieux. Mais la musique classique, c'est pas, pour reprendre le nom du blog de ma copine Séverine Garnier, c'est pas has-been. C'est pas dans le temps. C'est pas dans le temps. Voilà. Pour un petit enfant, enfin moi j'ai ça à la maison en l'occurrence, ce raisonnement-là n'existe pas. Il n'y a pas une musique qui serait que pour les grands, quoi.
Mais lorsqu'on vieillit, vous l'avez dit, ça devient un peu réservé à une part de la population dans certains esprits. Comment vous la vulgarisez, la musique classique, pour qu'elle soit accessible à tous?
Moi, ça, c'est vraiment mon idée fixe. C'est-à-dire que moi, je pense que la musique, comme un beau tableau de peinture classique, si on ne vous l'explique pas, il y a plein de choses que vous n'entendez pas. Quand vous allez au musée, et que vous pouvez tout à fait aller au musée tout seul, et vous allez voir un beau tableau de Poussin, ou de, je sais pas, même un peintre un peu plus récent, vous allez profiter du tableau. Mais s'il y a un guide qui vient vous voir, qui est spécialiste du peintre en question, qui vous explique le tableau, ben vous découvrirez que ce tableau a toute une histoire, c'est extraordinaire, etc. Et ben pour la musique, c'est pareil. Donc moi, mon idée, c'est d'essayer d'éclairer la musique du compositeur en question, du contexte, d'où on écrit. Donc si je pense à Bach, qui est le dieu sur Terre, synthèse, Bach, il écrit dans les années 1700, mettons, 1710, 1715, entre 1700 et 1750, on va dire. Il naît dans une terre qui est empreinte de la théologie luthérienne et qui est, une génération après, une guerre qui a duré 30 ans, qui s'appelle d'ailleurs la guerre de 30 ans, et qui a traumatisé la moitié de la population. Enfin, on sait que la moitié de la population a péri des suites de cette guerre, une personne sur deux. On est la génération d'après. Donc on peut bien s'imaginer que quand Bach écrit un motet comme celui qu'on a entendu dimanche sur des funérailles, évidemment qu'un motet de funérailles qui médite sur la mort, ça n'a pas du tout la même empreinte que nous, aujourd'hui, qui sont, enfin quoi qu'aujourd'hui, vu l'année qu'on vient de passer, la mort est un peu présente, mais c'est empreint de la vie socio-culturelle, historique, etc. Donc moi, la première chose que je fais, c'est que je regarde d'où vient le compositeur, quelle est son histoire de famille, sa formation, etc. Et puis après, ben, on regarde la partition, et quand c'est de la musique vocale, ce qui est ma spécialité, j'essaie de trouver le lien qu'il y a entre le discours musical, c'est-à-dire pourquoi il compose cette musique-là, par rapport au texte qui est chanté. Quel lien il y a entre le texte et la musique? Et souvent, c'est lumineux. C'est-à-dire que je pense à Bach encore. J'ai inventé une formule. Je dis qu'il a des tocs. Vous savez, les tocs, c'est les troubles obsessionnels compulsifs. Mais Bach, il a des tocs, mais c'est des troubles obsessionnels de la composition. C'est-à-dire que systématiquement, par exemple, quand il y a le mot allemand Freud, c'est la joie. Systématiquement, mais je vous mets au défi de me trouver un Freud dans une cantate de Bach qui n'est pas vocalisé, hyper joyeux, sautillant et tout. C'est systématique, c'est un toc. Donc évidemment que nous, on est au concert, on se dit « Oh là là, la soprane, elle chante hyper bien. » Puis on l'entend faire « Oh, oh, oh. » Et puis sauf qu'elle fait « Oh, 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 de. Freud. » Et on comprend pourquoi elle vocalise. Et tout est comme ça. Quand il y a un moment très lourd, comme... oui, il y a plein d'exemples, hein, où la basse continue est très lourde, très besogneuse, ben on regarde le texte et on se rend compte qu'en fait, le compositeur raconte l'image du texte. Donc moi, j'essaie de chercher le lien entre les deux et de transmettre cette attention-là à mes auditeurs. Voilà.
Vous parlez particulièrement de Jean-Sébastien Bach. Ouais. Pourquoi est-ce que vous l'aimez tant ?
Bon, j'en parle parce qu'on est à Sainte et que Sainte, c'est le lieu pour Bach depuis longtemps, à cause de Philippe Hervègue en particulier, enfin à cause, ou grâce plutôt, parce que c'est aussi le compositeur que j'ai travaillé le plus. Ça fait depuis 97 que je travaille, par exemple, La Passion selon saint Matthieu. Tous les ans, je me remets au travail sur cette partition, je donne des conférences dessus, tout ça. Donc c'est vraiment le compositeur qui me nourrit le plus aussi, parce que, ben, comme je vous dis, pour la Saint-Mathieu, par exemple, chaque année, je découvre des nouvelles choses dans cette partition. C'est incroyable. À la faveur d'une interprétation, j'attends le moment où Lionel Meunier et Vox Luminis vont chanter une Saint-Mathieu, parce que il est probable que je vais encore découvrir des choses. Mais donc il y a les interprètes, et puis il y a mon attention à telle ou telle image qui... l'année d'avant m'a pas touché, ou j'ai pas entendu, mon oreille était un peu distraite. Donc c'est une musique qui s'engendre, enfin, ou qui engendre votre audition. Je sais pas comment dire ça. C'est jamais fini d'écouter Jean-Sébastien Bach. En fait, même si on connaît, je pense au Magnificat par exemple, les trois quarts du public à Sainte connaît le Magnificat par cœur. Et ben ce midi, il s'est passé quelque chose. Il y a des choses qu'on a entendues différemment. Et ça, c'est chez Bach, c'est très très fort.
C'est de cette manière que vous parvenez à renouveler tous les morceaux que vous étudiez chaque année ?
Oui, je pense. Il y a le travail des interprètes. C'est évident que selon le concert ou le disque, on découvre des choses. Mais il y a aussi cette étude à la note près, à ce qu'il y a entre les notes, et surtout à l'attention au texte. Il y a des moments, il y a des textes, en l'occurrence c'est des textes bibliques, qui paraissent un peu obscurs, et puis l'année d'après, à la faveur de l'expérience de la vie, des rencontres, etc., ben, on comprend mieux. Et du coup, dans la transmission à la conférence, il est probable que je vais trouver un exemple un peu plus pertinent ou un peu plus rigolo aussi. Si je pense au Magnificat, par exemple, j'ai raconté à la conférence que quand on regarde l'étymologie de Magnificat, ça veut dire « il fait de grandes choses ». Donc, il est grand, ce Dieu-là en question. Il est grand, c'est le début de la prière des musulmans qui disent, dès qu'ils commencent à prier, Dieu est grand. Allahu Akbar. Alors j'ai raconté, Allahu Akbar, aujourd'hui on dit, c'est l'autre débile qui jette une bombe et qui dit Allahu Akbar. Mais quand on dit Dieu est grand, au départ, comme dans le Magnificat, c'est simplement une espèce de constat de départ. Bon alors attention, je vais vous raconter un truc, mais le premier truc à penser, c'est que Dieu est grand. C'est l'initial de la prière de toutes les religions, ça. Donc, commencer comme ça, évidemment, j'ai pas médité sur Allahu Akbar depuis 20 ans. Il se trouve que cette année, avec ce qui s'est passé, j'ai des amis musulmans qui trouvent que c'est quand même scandaleux, et ça les anéantit de penser que ces trois petits mots qui sont d'une douceur incroyable, et puis d'une humilité terrible, sont... dévalisés de leur sens par des abrutis. Donc voilà, ça, l'année dernière, je ne l'ai pas dit, par exemple. Voilà. Donc oui, ça se renouvelle d'une année sur l'autre.
Merci Hélène Dessé-Lartigo pour cette ouverture musicale et culturelle.
Merci beaucoup à vous.
Vous êtes toujours sur Radio Sainté et pour la suite de notre émission, je donne la parole à Kira et Lucas qui ont travaillé sur la programmation du Festival de Sainte aujourd'hui.
Voilà, tout à fait. On a réalisé aujourd'hui un reportage sur la programmation. Nous avons eu la chance d'interviewer Stéphane Maziejewski, qui nous a parlé donc de son travail sur la programmation du Festival de Sainte 2016. Et on a eu la chance également d'interviewer des festivaliers qui sortaient d'un concert. Et on va écouter tout de suite le reportage.
Artistique depuis, je pense, une douzaine d'années, mais je fais la programmation depuis 20 ans maintenant, c'est ma 21e programmation. C'est un festival de musique classique. Après, selon les années, là, c'est comme une recette de cuisine, il y a plus ou moins de musique ancienne. Cette année, il y a beaucoup de musique baroque, il y a presque la moitié des concerts, c'est la musique baroque. Les années où il y a plus de musique romantique. Donc tout ça, ça dépend vraiment après de... aussi des rencontres que je fais ou des propositions que je reçois ou des partenariats que je construis. L'idée, c'est qu'évidemment, on va plutôt compléter par de la musique de chambre, de la musique vocale, pourquoi pas du jazz en festival off, on va dire. Mais j'essaie à chaque fois de faire une programmation qui soit la plus éclectique possible.
Il y a de la variété déjà pour commencer. Il y a des petits points de rareté dans les compositions. Puis il y a de la singularité en plus. Donc c'est vraiment sympathique. Il y en a pour tous les goûts.
Je suis un peu fanat de musique baroque et ancienne, donc il y en a. Mais il n'y a pas que ça, donc il y a quand même un programme assez ouvert, et donc c'est l'occasion justement de s'enrichir un peu, de sortir de son petit schéma habituel, hein, et donc c'est cette variété de programmation, et puis la qualité des interprètes en général qui est toujours excellente, donc voilà, c'est pour ça que je viens ici depuis 30 ans.
Je suis un petit peu contre les... pas contre les thèmes, mais quand on a 35 concerts dans un festival, comme c'est le cas à peu près, si on va avoir un thème, après, c'est très vite, ça peut devenir un peu tiré par les cheveux, comme on dit. Et tout ça, au bout du compte, c'est la programmation. C'est comme une recette de cuisine, quand il manque un peu de sel, on en rajoute. Quand on trouve que c'est un peu trop chaud, ben, on rajoute un peu d'eau froide là-dessus. Enfin, je compare beaucoup ça à la cuisine, en fait, la programmation. C'est des ingrédients, des choses qu'il faut mettre. Des choses qu'il ne faut pas oublier, des choses essentielles, et des choses qui sont un peu moins, des choses qui dépendent du groupe.
Merci Stéphane Majeski pour votre temps. Maintenant, je passe la parole à Margot qui va nous expliquer un petit peu son reportage.
Merci. Alors aujourd'hui, j'ai suivi deux accordeuses, Ayumi et Lucille, qui m'ont expliqué leur métier, puis montré comment elles réparaient et préparaient tous les instruments avant les concerts.
Mettre en égal pour le reste et vérifier sol dièse et ré dièse.
Tu fais quoi?
Do dièse. Ça s'appelle Do du coup, hein. Oui. Je m'appelle Lucille Chartrain et je fais partie donc de l'équipe des accordeuses sur le festival. Donc en dehors du festival, je suis prof de clavecin à Tarbes et musicienne, notamment en Poitou-Charentes.
Bonjour, donc moi je suis Ayumi Nakagawa, je suis japonaise. Voilà, ben avec Lucille, on a commencé l'année dernière de ce festival. Et ben je suis à Paris maintenant et ben je suis claveciniste aussi. Je suis à la formation de chef de chant au Conservatoire de Paris.
Dans un clavecin, il y a plusieurs rangées de cordes. Donc on commence par accorder une rangée de cordes, du plus grave jusqu'au plus aigu, en commençant par accorder le milieu et après les extrêmes. Et en fonction du nombre de claviers, on accorde les autres rangées de cordes sur la première rangée qu'on a faite en première. On vérifie en fait que les intervalles sont corrects. Et alors pour ça, c'est effectivement encore un peu technique, mais il y a des battements. On entend vraiment des vibrations, c'est vaan, 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 vaan. Et on essaye, en fonction de ce qu'on veut, de les calmer, de faire en sorte qu'il y ait le moins de battements possible.
Thank you.
comme c'est une octave, l'octave est censée être toujours pure. Donc pure, ça veut dire sans battement. Donc ça veut dire que cette note-là par rapport à celle-ci, il faudrait que je bouge la cheville pour qu'on ait plus de battement, que ça soit tout plat. Parce que là... Donc que je puisse changer jusqu'à ce que ça soit complètement calme. Il claque. Intéressant aussi quand on accorde ce genre d'instrument, c'est le rapport à la matière, parce que c'est des instruments en bois et du coup on a aussi des paramètres, par exemple surtout avec les orgues mais aussi les clavecins, de taux d'hydrométrie, de la température, et en fonction de ça et en fonction des déplacements, nous on est toujours en train d'adapter l'accord.
Le piano c'est hyper costaud, bah du coup il bouge pas beaucoup par rapport au clavecin, et le clavecin c'est un bois, c'est très fragile, bah du coup bah si on en arrive de bas un jour, bah ça va être... Ouais, c'est fini.
Et puis on fait à l'oreille, donc c'est pour ça, comme je le disais tout à l'heure, plus il y a de bruit, plus c'est difficile pour nous. Parce qu'on a plus de mal à concentrer l'audition sur justement ces battements que tu as entendus là. C'est vraiment là-dessus, nous, qu'on travaille. Okay. Donc si on les entend pas, bah, on n'arrive pas à accorder. Bon, après, si tu mets la tête dans l'instrument, tu l'entends. Hein. Il y a des matins où il faut faire un accord très tôt à 7h30 et on est debout à 6h30 pour que ça soit fait. Et puis un autre matin où ça commence plus tard. Donc le planning change et puis nous on s'adapte en fonction. Le chef de Vox Luministe a ramené son orgue à lui. Et donc on a eu un problème de fuite dans l'abbaye. Il y a eu un nettoyage du clocher qui a mal tourné et il y a eu de l'eau qui est tombée sur et dans l'instrument. C'est pas un instrument du festival, c'est l'instrument de Lionel qui dirige les Vox Luministe. Donc on a dû le déplacer. Il est encore en train de sécher en espérant qu'il se remette à marcher avant les prochains concerts. Au fur et à mesure de l'accord, nous on est un peu la tête dedans, donc on fait en sorte d'aller jusqu'au bout. Mais une fois que c'est fini, normalement l'instrument sonne bien et c'est prêt pour le concert, et ça c'est très satisfaisant. On arrive là, on est là toute une semaine, donc c'est un peu en immersion complète. On bouge pas trop de l'abbaye ou sinon un petit peu dans le centre-ville, mais c'est tout.
Voilà, nous venons d'écouter l'émission le reportage réalisé par Margot. C'est la fin de cette deuxième émission de Radio Synthé. On se retrouve demain, même heure, même ambiance.
Et pour le concert de ce soir, c'est un concert Exil de Malapunika. Donc, retrouvez-nous sur le blog Abbaye aux Dames. Et maintenant, je passe la parole à Margot.
Eh bien, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, à demain sur la toile, sous la toile et dans l'Abbaye aux Dames.
Bienvenue sur Radio Synthé. La rédac vous présentera des articles, des reportages, des interviews.
Et bien plus encore.
Retrouvez-nous sur le blog de l'Abbaye aux Dames. Restez à l'écoute sur
Radio Synthé.